Oui, je crois que vous, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 40e numéro de L'écume des pages, ultime numéro consacré aux ouvrages de la rentrée littéraire. J'espère que nous sommes parvenus à évoquer suffisamment de livres et je dois dire que nous avons été heureux et heureuses de lire et critiquer les ouvrages de la rentrée. Aujourd'hui, 5 derniers livres, 4 romans et 1 essai. Il s'agira de Ne m'appelle pas capitaine de Lionel Trouillot, 2 ans, 18 mois, 28 nuits de Salman Rushdie, Défaire le démos de Wendy Brown, À son image de Jérôme Ferrari et enfin Lèvres de pierre de Nancy Houston. Et pour ces dernières lectures et critiques, j'ai à mes côtés Alice, Marie, Maë et Colline. Bonjour à toutes les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Colline, je crois que tu as lu Ne m'appelle pas capitaine de Lionel Trouillot, paru chez Actes Sud. Pour reprendre une formule d'une de nos émissions favorites, Colline, qui, que, quoi, qu'est-ce ?
Alors merci Juliette de ces questions tout à fait pertinentes. Pour te répondre dans l'ordre qui, que, quoi, qu'est-ce, alors qui ? L'auteur Lionel Trouillot, qui est un auteur haïtien, assez engagé dans le rapport au créole, notamment. Il a dirigé une anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours, qui est parue en 2015. Et on sent qu'il a un plaisir de la langue, un plaisir de l'écriture, qu'il nous transmet très bien à travers ce roman « Ne m'appelle pas capitaine ». Ce qui nous amène à la deuxième question, quoi ? Mais qu'est-ce que raconte ce roman ? Eh bien, ce roman, c'est l'histoire d'Aude, une étudiante en journalisme qui est blanche, qui fait partie de la bourgeoisie blanche d'Haïti, et qui décide, un peu par rébellion, mais une rébellion un peu consensuelle, on va dire, d'aller, pour ses études de journalisme, d'aller interviewer des personnes qui sont dans le bas de la ville, puisque la ségrégation sociale est vraiment marquée à la fois en termes de couleur de peau, la bourgeoisie est blanche et les gens avec peu de moyens sont noirs, et à la fois dans la ville spatialement, puisque les bourgeois blancs habitent dans les hauteurs et que le reste de la population habite plus en bas sur les terres. Et donc c'est un peu une découverte à la fois de ce milieu social dont elle n'est pas issue et qui en même temps lui fait peur, en même temps l'intéresse, et une découverte d'elle-même, par conséquent, de ses propres pratiques, de son histoire familiale qu'elle resitue, en fait. Au fur et à mesure, le personnage principal, Aude, comprend que ce qu'elle vit n'est pas nécessairement normal, en fait, et n'est pas la norme partagée par tous. Et donc, intervient dans ses entretiens le fameux capitaine du titre « Ne m'appelle pas capitaine », puisque cet homme qui perd un peu la boule, on va dire, se livre à Aude, est un vieil homme noir qui vit et qui entretient, on va dire, une bande de jeunes qui sont pauvres, qui sont paumés, qui sont un peu laissés à eux-mêmes et qui trouvent en ce capitaine le refuge nécessaire, un espèce de modèle. Et donc cet homme très mystérieux, et le récit est construit en boucle autour de lui. C'est-à-dire que au fur et à mesure du roman, on comprend de mieux en mieux ce qu'il dit et on reconstitue les pièces du puzzle de sa mémoire pour découvrir son passé, un passé trouble et beau, et ce qui fascine Aude et qui mêle danger, révolte sociale, dojo et jeunesse en perdition. C'est un roman que je vous recommande vivement, notamment par son écriture, vraiment très belle, je l'ai déjà dit. Et pour vous donner un peu plus envie, j'ai décidé de vous lire vraiment les premières lignes du roman. Ça s'ouvre ainsi. À chaque séance, j'appréhendais ce moment où l'homme devenait une défaite, ses mains usées sabrant le vide, la violence des mots redonnant pourtant un semblant de force à la voix. La première fois qu'il était sorti du cadre de l'entrevue pour se mettre à hurler, plus exactement à essayer de hurler en luttant contre l'emphysème et les rhumatismes, ne me voyant plus, rendu dans un ailleurs habité par lui seul, le visage devenu un micmac de larmes et de baves, une eau noire d'où coulaient suppliques et invectives, j'avais eu très peur. Il me rappelait Maxime, quand éclataient ses crises. Mais la différence était grande entre le vieil homme et Maxime. L'un hurlait à la mort par trop plein de langage. Jamais en manque de mots, mais seulement de vivants avec lesquels les partager. L'autre, faute de mots, avait passé son enfance à casser et défaire les tonnes de jouets que lui offraient ses parents, sa famille, les amis de la famille, leur préférant de loin les poupées de sa petite sœur. J'en recevais beaucoup, toutes blanches. Seul l'oncle Antoine m'en avait offert une noire qu'il avait ramenée d'une boutique d'artisanat. Elle venait du marché en fer, un de ces lieux dont j'ignorais l'existence. Tante Marthe avait voulu la faire désinfecter. Je ne sais pas ce qui lui déplaisait le plus chez cette poupée. La couleur, l'origine, mais elle lui vouait une haine que l'on réserve d'ordinaire aux êtres qu'on juge maléfiques. Maxime ne triait pas dans le tas. Toute poupée était une merveille. Un double avec lequel jouer. Une sœur à qui se confier. Il leur parlait bien plus qu'à moi. Il aimait indifféremment la noire et les blanches et les emportait dans sa chambre. Je le laissais faire. C'est un roman tout en douceur qui se déroule et dont la complexité apparente est un mystère qui se résout au fur et à mesure. On entre dedans comme on entre dans une eau dont on ne sait pas bien si elle est trop chaude ou en fait si c'est un froid qui est mordant. Et c'est une impression très agréable d'écriture très construite, très travaillée. Et c'est un plaisir à lire et un plaisir de se souvenir de la lecture de ce livre-là qui est paru chez Actes Sud.
Merci pour cette présentation. Il s'agissait donc de « Ne m'appelle pas capitaine » de Lionel Trouillot, paru aux éditions Actes Sud. 2 ans, 8 mois, 28 nuits, c'est le dernier roman du très prolifique Salman Rushdie, paru également chez Actes Sud. J'avoue ne pas avoir terminé ce livre, mais il s'agit d'une sorte de conte où l'on suit des générations de djinns dispersés dans le monde entier et qui viennent un peu se mêler aux humains, je crois. Cela donne lieu à des histoires assez extraordinaires. L'envoûtement de ces mille et une nuits vous a-t-il saisi, Marie-Alice ?
Alors moi, je dois avouer que j'ai vraiment adoré ce livre. C'était la première fois que je lisais honnêtement un livre de Rushdie. Et j'ai vraiment, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai vraiment été séduite par ce dispositif que je découvrais en fait, ce dispositif qui mêle vraiment, je trouve très habilement le réel et le monde merveilleux. Et ça m'a vraiment totalement séduite. Je sais pas ce que tu en as.
Oui, j'ai beaucoup aimé pour un peu pour les mêmes raisons. Enfin, on a vraiment ce mélange entre, enfin je sais pas, au début ça commence un petit peu. On a un peu l'impression que ça commence comme un roman, je sais pas si on peut dire classique, mais enfin, il y a des passages dans le monde réel, etc. On suit un personnage et puis après, petit à petit, le merveilleux rentre et on sait pas trop est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et petit à petit, enfin, le merveilleux contamine tout le roman et j'ai beaucoup aimé ça.
C'est ça. C'est vrai que comme tu dis, petit à petit, enfin, le merveilleux s'installe et on sait pas trop ce qui est réel et ce qui est merveilleux. Et je pense que c'est une des forces pour moi de ce roman, c'est qu'aussi on a, on s'amuse un petit peu à chercher le réel derrière ce qui est merveilleux, et c'est un petit peu comme si on avait un peu un pack de lecture qui était formulé donc au début du roman avec Rushdie qui nous dit bah voilà, tout ce que je vais vous dire va y avoir derrière ça une petite référence pertinente à ce qui se passe aujourd'hui, et que nous du coup notre jeu entre guillemets à nous c'était de trouver, de piocher un petit peu des indices et de faire ce lien entre le réel et le merveilleux, sachant que j'ai trouvé que c'était jamais forcé, qu'on pouvait totalement lire le roman en éprouvant du plaisir à rentrer dans ce monde fantastique sans être forcé, pour comprendre le roman, à établir un parallèle avec le réel. Je sais pas si t'as partagé
oui,
ça.
Oui, effectivement. Enfin, après, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que justement, Salman Rushdie, c'est jamais très clair où on en est. Et je sais pas si on peut dire qu'il nous mène en bateau, mais en tout cas, enfin, il joue un petit peu sur le fait que parfois certains passages sont confus ou en tout cas qu'on sait pas exactement comment se situer. Enfin, c'est qu'on a un début qui est un petit peu bizarre. Il commence à nous parler des djinns. Ensuite, il enchaîne avec une histoire qui se passe dans le passé. Ensuite, il revient sur le présent. En même temps, c'est le présent, mais on sait pas trop si c'est dans le futur ou pas. Il y a un narrateur qui, enfin, en tout cas, une voix qui dit un nous, et on sait pas exactement quand est située cette voix. Et du coup, on se retrouve avec un peu un puzzle et il faut reconstruire tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment sympa comme jeu et, enfin, cumulé avec effectivement ce mélange des genres qui est à l'œuvre dans le roman.
C'est ça, ouais. Bah, juste pour revenir sur ton idée de puzzle, je suis vraiment d'accord avec toi. On a vraiment un peu, pas vraiment une. Enfin, une sorte d'alchimie, un melting pot en fait, entre plusieurs mondes. Donc à la fois, on passe des bidonvilles d'Inde aux villes de New York, aux grandes villes d'Asie. On a une évocation de la pop culture américaine, on a une évocation des mondes anciens. Enfin, on a vraiment plein de références qui se mêlent. Et je trouvais que c'était un peu un roman qui avait vraiment une sorte d'alchimie. Entre à la fois, donc, comme tu dis, plusieurs mondes, entre le réel et le fantastique, et puis aussi entre le plaisir de la lecture, parce qu'il y a vraiment des passages que j'ai trouvé vraiment en quelque sorte jubilatoires, des choses vraiment très drôles, des choses qu'on se plaît vraiment des passages vraiment vraiment drôles, et aussi qui mêlent aussi donc la réflexion, parce que c'est vrai que ça nous fait aussi vraiment, je pense, réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui, et ça nous montre aussi les liens entre par exemple une querelle philosophique qui a eu lieu il y a des siècles et ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est une manière de voir le monde qui est surprenante et à quoi on est éveillé en lisant le livre, j'ai trouvé.
Oui, effectivement. Et puis après, juste pour revenir justement sur cette idée de lieux qui se succèdent et qui s'enchaînent, ce que j'ai trouvé le roman aussi très touchant par certains aspects, notamment avec certains personnages et en particulier le personnage principal, mais on a vraiment, ça doit être moi et mes obsessions littéraires qui reviennent, mais on a vraiment un peu cette question de l'exil et... j'ai trouvé, parce que c'est vrai qu'on a des personnages qui se déplacent un petit peu, qui ont jamais vraiment l'impression d'appartenir au monde où, dans lequel ils sont, qui se sentent jamais vraiment chez eux, et d'une certaine façon c'est le cas, parce que la plupart de ces personnages sont à moitié humains, à moitié djinns, et du coup j'ai trouvé que ça, enfin, il y a ce côté effectivement très jubilatoire, très Hollywood aussi à la fin avec tout ce qui se passe. Il y a finalement pas mal d'action dans la deuxième partie du roman.
Finalement, et il faut attendre un petit peu, mais
et, c'est ça, et il faut attendre un petit peu, mais il y en a quand même, et en même temps, et je trouve qu'il y a vraiment cette espèce de douceur et de, comment dire, je trouve que Salman Rushdie a une façon de traiter ces questions de pas se sentir chez soi et cette question de l'exil avec beaucoup de douceur, et je trouve que c'est aussi ça qui fait la force du roman, c'est que on a beaucoup de choses qui se mélangent et on peut le lire vraiment de différentes manières, s'attacher à des personnages, d'autres qu'on va trouver très comiques, enfin. C'est comme tu disais, en fait, c'est vraiment une alchimie de plein d'éléments différents.
C'est ça, ouais. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Et pour rebondir aussi sur ton idée de thèmes qui sont évoqués, comme le thème de l'exil, qui est un thème un thème qui nous parle vraiment, qui nous touche, comme tu as dit. On a aussi des thèmes comme notre rapport au fantastique, notre rapport au rêve, notre rapport à l'étrangeté, à la normalité, qui sont évoqués aussi. Et c'est vrai qu'on a aussi cette réflexion, pas seulement sur des thèmes, sur l'actualité, etc., mais sur des choses qui peuvent nous toucher aussi plus intimement, qu'on a aussi cette dimension-là qui rentre en jeu. Et c'est vrai que c'est vraiment aussi touchant. Il y a plein de dimensions qui vont venir se mêler pour créer quelque chose qui au final est vraiment intéressant, je trouve, et original, parce que c'est vrai qu'on a très peu de livres qui mêlent le réel et le fantastique comme ça. Je crois que Rushdie est un peu un maître dans dans cette matière-là, et puis il va au-delà de ça aussi, puisque comme tu dis, il nous fait réfléchir sur d'autres thèmes, et c'est sur le thème de la religion aussi qui est assez présent.
Oui, effectivement. En plus, c'est assez intéressant de voir qu'il traite la religion, mais aussi à travers ce, le filtre un peu des djinns aussi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais au départ, les djinns sont quand même des esprits qui sont présents dans le Coran aussi. Donc, on a à la fois... Mais en même temps, qui ne sont pas... Enfin, qui sont pas du tout des dieux, quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment... On a un peu cette approche beaucoup plus humaine, j'ai trouvé, de... Enfin, de toutes ces questions-là.
Oui, oui, oui. Peut-être que pour rebondir sur ce que tu dis, on pourrait juste prendre un petit passage à un moment. Rushdie parle de la maladie de l'étrangeté.
Mm-hmm.
Et je trouve que c'est... Enfin, ça fait écho aujourd'hui avec... avec des... ce qui peut se passer aujourd'hui. Il dit peut-être que la maladie... l'étrangeté était désormais devenue une maladie sociale, avait été apportée aux États-Unis par certains de ces individus, indiens, pakistanais, bangladais, tout comme la dévastatrice épidémie de sida avait commencé quelque part en Afrique centrale avant d'arriver aux États-Unis. Le public commença à murmurer et les Américains originaires d'Asie du Sud se mirent à craindre pour leur sécurité. De nombreux chauffeurs de taxi collèrent sur leurs voitures des autocollants disant « je ne suis pas si étrange » ou bien « la vraie voie de l'Amérique, c'est la normalité, pas l'étrangeté ». Donc c'est vrai qu'on a des passages comme ça qui peuvent être lus de plein de manières, qui peuvent être appréhendés de manière totalement différente et qui nous font réfléchir, alors pas forcément sur le coup, mais après c'est vrai que c'est aussi un roman qui fait son petit bout de chemin et qui nous,
ouais, effectivement.
Qui nous apprend aussi beaucoup de choses. Donc ouais, j'ai un avis très positif sur ce...
Bah oui, vous avez toutes les deux un avis très positif, ça me donne envie de poursuivre ma lecture là où je m'étais arrêtée, de découvrir cette deuxième partie qui comporte davantage d'action, comme vous l'avez dit. C'était donc 2 ans, 8 mois et 28 nuits, le dernier roman de Salman Rushdie, paru chez Actes Sud. Je précise qu'à la rentrée, l'auteur a également publié La Maison Golden, toujours chez Actes Sud. Nous passons maintenant à un essai politique et économique que j'ai lu, Défaire le démos, sous-titré Le néolibéralisme, une révolution furtive, de Wendy Brown, qui est paru aux éditions Amsterdam. Alors, c'est un travail sur le néolibéralisme aujourd'hui, qui essaie un peu à la fois de synthétiser les travaux qui ont été faits jusqu'à présent, tant du côté de l'économie que de la philosophie. Enfin, on a tout un passage sur Foucault, sur la notion de gouvernance, donc c'est un ouvrage quand même orienté politiquement. Et en même temps, elle apporte de vrais points nouveaux par petites touches d'exemples qu'elle prend. Et en fait, c'est par ça que moi j'ai été le plus convaincue, je dirais. Tout ce qu'elle reprend, en fait, je me suis dit... D'accord, c'est vraiment très intéressant quand on ne connaît pas forcément le néolibéralisme, mais c'est quand même un gros résumé de certaines connaissances qui ont déjà été établies dans des ouvrages théoriques. Mais par contre, elle prend des exemples vraiment, vraiment intéressants sur la place des femmes, par exemple, dans le néolibéralisme, et elle analyse ça d'une manière très, très fine en montrant que ce système... va détruire certaines infrastructures et certaines structures de sociabilité, et que les femmes vont pallier à ça en faisant davantage de travail social, en s'occupant davantage de choses à la maison, et que finalement le néolibéralisme, tout en ne prenant pas en compte les femmes, puisqu'elle part du postulat que l'homo economicus, ce fameux homo economicus est un homo economicus masculin, et bien finalement en fait le néolibéralisme a besoin des femmes pour se développer. Il y a un vrai paradoxe qu'il serait peut-être bon de creuser. Elle ne le creuse pas, mais elle le laisse un peu comme une piste comme ça éventuelle. Elle prend aussi l'exemple de, j'avais noté, de l'agriculture irakienne. Enfin, c'est vraiment des points comme ça où elle développe des choses extrêmement intéressantes. Mais le fait est que entre ces chapitres, parfois j'ai été un peu perdue. Je me suis vraiment dit, sur le coup, ce chapitre en lui-même est intéressant et soulève un point intéressant, mais parfois on saute un peu du coq à l'âne, et j'ai eu du mal à percevoir la structure sous-jacente de ce livre. Et je trouve aussi que si sur certains points et certains exemples, elle approfondit vraiment sa réflexion, il y a des gros points qui restent en suspens. Notamment, elle répète vraiment énormément que le néolibéralisme a été exacerbé de nos jours et de manière assez inattendue. Mais elle explique jamais vraiment pourquoi, quelles ont été les conditions qui ont amené à ça aujourd'hui. Enfin, elle a vraiment toute une pensée philosophique et historique, politique derrière elle. Mais je trouve que, enfin, il y a certains enjeux actuels qui sont pas suffisamment explicités. Du coup, moi, j'avais des interrogations qui restaient un peu en suspens.
Néanmoins, bien sûr, elle révise dans l'actualité certaines définitions qu'on avait pu avoir, notamment, donc je l'ai dit, elle reprend Foucault, elle revoit ce que Foucault n'avait pas pu voir à son époque, parce que bien sûr on a changé, et notamment elle parle du capital financier qui a pris énormément d'importance et que dont Foucault ne pouvait pas avoir connaissance. Donc voilà, il y a vraiment des raisonnements intéressants. J'ai trouvé aussi par contre que le livre était assez centré sur le monde anglo-saxon, et donc des fois on se sentait un peu en dehors, même si c'est très intéressant également pour connaître mieux cet univers et les préoccupations particulières du monde anglo-saxon, bien sûr auxquelles nous sommes reliés. Et je trouve que son épilogue, la dernière partie de l'essai, est particulièrement intéressante parce qu'elle fait un retour assez rapide et intelligent sur les aspects qu'elle n'a pas abordés dans son ouvrage, et donc elle avoue qu'elle n'a pas forcément pu les voir suffisamment. Et voilà, je trouve ça intéressant malgré ce manque de un peu de linéarité et de poursuite vers quelque chose. Je trouve voilà que ce livre manque juste voilà de à la fois d'approfondissement sur certains points et de logique tout simplement dans sa structure. Parfois, bien sûr, je vais nuancer quand même mon propos parce que j'ai trouvé ça néanmoins très intéressant et très stimulant. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a frappée dans l'épilogue parce que nous avons parlé dans un des numéros précédents de L'écume des pages d'Un monde en pièces, qui était une BD avec un jeu d'échecs et où la société est représentée par des pions du jeu d'échecs. Et à la fin, elle écrit dans son épilogue « Et des sacrifices au jeu, donc il va y avoir des sacrifices au jeu, comme le sacrifice d'un pion aux échecs. » Et je me suis dit que finalement, nos livres de la rentrée littéraire se répondaient malgré eux, peut-être entre eux. Voilà. Et donc, il s'agit du livre « Défaire le démos », qui est sous-titré « Le néolibéralisme, une révolution furtive ». C'est de Wendy Brown et c'est paru aux éditions Amsterdam. La traduction est de Jérôme Vidal.
Club, big business is its name, and big business belong to that club too, just not me and you. Hey. They make these decisions for us cause they know best, and if you believe that, I got another test. I got this bridge over.
À son image de Jérôme Ferrari, que nous avons lu toutes les deux, Maë. L'ouvrage est paru une fois encore chez Actes Sud et nous parle d'une jeune photographe, Antonia, dont on apprend dès le début qu'elle est décédée en voiture en revenant d'un mariage au cours duquel elle devait prendre justement des photos. Les images de la jeune fille vont venir hanter le livre par le biais des personnes qui l'ont rencontrée et qui vont lui rendre hommage en quelque sorte, et que l'on va croiser progressivement dans le livre. Personnellement, je dois dire que ce livre m'a beaucoup émue, surtout par le lien qu'il établit entre la mémoire, les photos et la mort d'une personne aimée. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Eh bien, disons que j'ai pris plaisir à lire ce livre. Enfin, c'est un livre qui se lit bien quand même. On accroche assez facilement à l'histoire. Voilà, on s'attache à ce personnage d'Antonia, surtout que le narrateur, du coup, c'est ce que t'as dit. Enfin, je sais pas si tu l'as dit, c'est le parrain d'Antonia qui fait la messe mortuaire. Et du coup, bon, il était très attaché à sa filleule. Du coup, c'est vrai que voilà, on s'attache à ce personnage. Sa vie est assez intéressante. Hein, elle est photographe. Il y a tout le passage où elle va un peu en Yougoslavie, etc. Moi, qui m'a assez parlé. Après, je t'avoue que j'ai pas été non plus passionnée par ce livre-là pour tout un tas de raisons dont j'imagine qu'on va parler.
Moi, j'avoue qu'effectivement, les passages dont tu parles, les passages de sa vie, même le fait qu'il y ait tous le nationalisme sous-jacent, enfin, ça se passe en Corse et on a toutes des affaires de groupes et de groupes nationalistes qui, au départ, ce sont des jeunes que Antonia connaît et qu'elle côtoie tous les jours, et finalement, ce nationalisme va être grandissant et sans contrôle. Et je trouve que comme ça, voilà, il y a des petites touches de référence à des actualités qui sont parlantes. Après, effectivement, comme toi, j'ai bien aimé. Je dirais pas non plus que c'est un coup de cœur de la rentrée, mais j'avoue que c'est un des meilleurs livres quand même que j'ai lu pour cette rentrée littéraire. Et je vais pas parler de la fin, mais quand même, j'avoue que en fait, ce qui m'a beaucoup émue, c'est de lire rétrospectivement l'ouvrage une fois que je connaissais la fin et une fois qu'on a certaines révélations. Parce que moi, j'ai vraiment complètement cru à cette histoire. J'ai été complètement emportée et voilà, par le réalisme en fait de cette histoire. Et j'avoue qu'à la fin, on a un véritable éclairage rétrospectif sur tout ce qu'on a lu. Et moi, j'ai vraiment été presque prise au dépourvu, donc je vais pas révéler pourquoi, bien sûr, mais et c'est pour ça que...
Attention, spoiler.
Non, quand même, il faut le lire. En plus, c'est pas très long, enfin vraiment, ça se lit très bien et c'est très agréable. Et oui, j'avoue que la fin m'a encore plus émue, et vraiment, c'est là que j'ai vu ce lien entre les images, l'image qu'on a sur la couverture, enfin, ces photos... Oh, je sais pas, non, je vais trop en dire après, j'ai peur de révéler. Donc moi quand même, j'ai plutôt été assez convaincue.
Ouais, je trouve qu'il manque de profondeur, c'est-à-dire que l'histoire est pas mal, le fil narratif se tient, on est accroché, mais en fait, ouais, je trouve que ça manque de profondeur. Bon, Antonia, c'est une photographe, donc Ferrari essaye de faire tout un développement sur la photographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que photographier la vie? Pourquoi? Est-ce que les photos, ça a un sens existentiel, etc., pour l'humanité? Et c'est vrai qu'en fait, toute la profondeur qu'il met dans ce roman, il la tire de la religion. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup accroché, c'est que voilà... Finalement, il a une vision assez chrétienne de la vie, des problèmes existentiels, etc. Et y compris des problèmes politiques qu'il y a en Corse. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que ça aussi, c'était un défaut. C'est que, oui, certes, il parle de la politique en Corse. Il montre, voilà, ces problèmes de lutte interne dans les partis indépendantistes corse. Parce que, bon, voilà, eux, ils sont corse, du coup, ils fréquentent tous ces milieux-là. Mais j'ai trouvé que ça manquait, en fait, terriblement de profondeur. Ces analyses-là, c'est vraiment... Ah, c'est terrible, tout le monde se tape dessus, tout le monde meurt pour rien, pour des idées. Ah, bah, c'est bête, les hommes devraient pas être comme ça. Enfin, moi, très rapidement, je m'embête quoi, quand on m'explique ça pendant tout un roman. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je reste assez partagée.
Tu veux dire que tu trouves que le personnage était plus un prétexte à avoir des espèces d'illustrations de problèmes actuels et que c'était pas, ça rentrait jamais...
Non, je trouve juste que ce qu'il dit... Parce qu'il tente de faire des réflexions, enfin il en fait même, et du coup je trouve juste que ça manque de profondeur et de réflexion, enfin c'est vraiment ça. J'aurais préféré qu'il se risque pas à proposer des interprétations politiques ou des explications et à faire ses réflexions existentielles, si c'était pour en faire ce qu'il en a fait. Bon là ça paraît un peu sévère, je suis pas aussi sévère que ça, mais voilà, enfin c'est un peu mon ressenti de fond. J'ai pas énormément accroché parce que ça m'a pas parlé dans voilà, enfin ce qui parce que voilà, un roman c'est la trame narrative, mais c'est aussi voilà, on va nous raconter des choses un peu plus générales, voilà, et on va prendre un peu de hauteur, et c'est cette hauteur que j'ai pas réussi à prendre avec ce roman.
Oui, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est vrai, et même ce personnage du parrain qui est assez qui est quand même assez touchant. Et qui est prêtre. Oui, il est prêtre, c'est ça. Et j'avoue que il m'a pas non plus totalement convaincue. On pourrait croire que c'est vraiment l'amour qu'il portait à Antonia, c'est ce qui est quand même très présent dans le roman, où en effet on a une grosse place accordée à la religion. Mais moi, il y a des fois où je le trouvais juste un peu en dehors du coup, un peu plat comme personnage en fait. Et alors que c'est quand même le deuxième peut-être personnage principal en gros, hein. Et c'est donc c'est vrai qu'il y a... Oui, c'est ça. Après, je veux dire, on rencontre plein d'autres personnages qui sont aussi importants, mais c'est vrai que voilà. Et oui, c'est vrai que c'était peut-être un peu plat, en fait. C'est un peu ça. Ça manquait de relief. Enfin, quand on essayait de mettre du relief, ça allait peut-être pas suffisamment creuser. D'ailleurs, une fois de plus, enfin, je le répète, mais le roman est quand même assez court. Enfin, moi, je l'ai lu vraiment extrêmement vite.
Oui, cool.
Et peut-être que c'est aussi un parti pris de dire... Enfin, voilà, de faire ce type de roman.
Ouais, mais ça rejoint le côté un peu simpliste, en fait, parce que c'est ce que tu dis, effectivement, le parrain, c'est vrai que, voilà, il est tout à son amour pour Antonia, il l'aime de manière inconditionnelle, et voilà, ce personnage, c'est ça, c'est un prêtre qui adore sa filleule, et c'est vrai que c'est un peu simpliste pour un personnage.
Après, pour parler des points peut-être positifs quand même, parce qu'il y en a, enfin, on a dit que c'est pas désagréable à lire, je trouve que c'était finalement une bonne idée de découper le roman sous les différentes parties de la messe en fait, funéraire. Chaque chapitre a un nom, bah, du coup, en latin, là, incapable de les ressortir, mais disons qu'il y a quelque chose. Il tient quelque chose, là. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à en faire... à le mettre plus en valeur, mais ça, je trouvais que c'était assez intéressant, de la même manière que c'était intéressant de retracer a posteriori la vie d'Antonia, ce qui est finalement ce qu'on fait un peu dans les enterrements tout le temps, de reconstruire la vie du défunt ou de la défunte. Du coup, ça, je trouvais qu'en fait, l'idée du roman était intéressante.
Peut-être qu'il a voulu aborder trop de points à la fois en un minimum de temps, et que du coup, c'est pas complètement convaincant, mais c'est vrai que la structure est assez, assez belle. Enfin, cette idée de vouloir faire un tombeau à une personne dont nous, on a accès qu'à l'image, en fait, qu'à une photographie. Encore une fois, la photographie est très présente. Enfin, moi, ça m'a assez convaincue, ce lien à la photographie, mais bref. Je trouve que ça, c'est assez, assez fort de dire, voilà, cette personne est morte et on va en reparler. Je sais pas, moi, ça m'a... Ouais, ce point-là en particulier m'a plutôt convaincue.
Oui. Bon, oui, c'est vrai que c'est bon. C'est un côté touchant, quoi. On se laisse... On a de l'affection pour cette Antonia, quoi.
Merci, Maï. C'était donc « À son image » de Jérôme Ferrari, paru chez Actes Sud. Nous finirons encore avec toi, puisque tu as lu « Lèvres de pierre » de Nancy Houston, publié chez Actes Sud. Décidément, ce sera le numéro spécial de Actes Sud aujourd'hui. Donc, « Lèvres de pierre », Maï, de quoi ça parle? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, de quoi ça parle? Alors, c'est Nancy Houston, du coup, qui fait en fait le récit, qui s'essaye à faire le récit croisé, en fait, de sa vie, sous son pseudonyme Dorit. Mais enfin, elle explique dès le début, c'est bien de elle dont elle va parler. Et du dictateur cambodgien Pol Pot. Sa théorie, donc, et la justification de ce parallèle un peu osé, ce sont les lèvres de pierre, d'où le titre du roman, l'éternel sourire de Bouddha, finalement qui serait le masque derrière lequel se dissimulent toutes les souffrances de ces deux personnes. Et voilà, alors qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que j'ai aimé ou pas? Je vais essayer d'être pédagogue et je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est que la forme du roman est... Il y a des belles trouvailles encore une fois ici. Par exemple, elle parle de Pol Pot à la première personne. Donc elle dit « je » pour faire toute la partie biographique de Pol Pot. Et elle utilise la troisième personne du singulier pour la partie autobiographique, donc celle de Dorit. Et ça, finalement, c'est assez malin. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que du coup, on... En fait, c'est un procédé assez simple, mais du coup, elle était le plus éloignée de Pol Pot, et avec le jeu, eh ben, on a l'impression qu'elle est vraiment très proche, et comme de toute façon, elle était très proche de Dorit, nécessairement, eh ben, la troisième personne du singulier ne dérange pas. Et c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment ce parallélisme qui ressort mieux comme ça, parce que du coup, il y a le jeu et le elle. Ce qui fait que voilà, s'il y avait eu deux jeux, je pense que ça aurait été moins bien ou pareil que seulement des troisièmes personnes du singulier. Ça, c'était juste pour les points positifs.
Les points négatifs, maintenant, tu as l'air de les retenir, mais...
Les points négatifs, c'est que... Non, attends, encore un point positif quand même. C'est vrai qu'on se laisse quand même prendre, encore une fois, par le fil narratif du roman. Voilà, c'est assez intéressant... On se prend au jeu, du coup on a envie de savoir ce qui va se passer dans la vie de Pol Pot, on a envie de savoir ce qui va se passer dans la vie de Dorit. Donc voilà, ça se lit quand même assez bien, c'est un roman assez court encore une fois. Et c'est assez bien écrit aussi, il y a notamment, j'ai retenu une forme qu'elle utilise assez souvent, c'est les phrases non verbales qui commencent par un « et » biblique et qui peuvent avoir pas mal de poids mises à la fin d'un paragraphe ou... Voilà, ça c'est ce qui m'a plu, et du coup, excuse-moi, donc les points négatifs, c'est que c'est la justification de ce roman, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai dit, c'est un parallèle osé, et moi, après avoir lu le roman, j'ai envie de dire c'est un parallèle douteux, en fait. C'est-à-dire que elle fait la justification de tout ça dans le premier chapitre du livre, donc elle tente d'expliquer, de dire que voilà, elle se sentait très proche du Cambodge, elle a toujours eu une sorte de fascination pour ce pays, elle a toujours eu l'impression que ça avait un lien avec elle, elle a commencé à vouloir écrire là-dessus, et après elle s'est soudain rendue compte que Pol Pot était le seul Cambodgien, c'est ce qu'elle dit, hein, elle était le seul Cambodgien avec lequel elle pouvait en fait finalement avoir un lien. Mais en fait, moi, je trouve que c'est... Je suis désolée, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, en fait. Parce que, finalement, le lien qu'elle établit entre elle et Pol Pot, c'est des trucs... Bah oui, ils ont fait tous les deux leurs études à Paris. On était dans les années 60. Ils ont tous les deux découvert le marxisme à Paris. Mais tout le monde a découvert le marxisme à Paris dans les années 60. Oui, ils ont tous les deux eu une enfance difficile. Mais enfin, il y a... Plein de personnes ont eu des enfances difficiles. Et du coup... Elle décide qu'il y a comme ça un parallèle entre elle et ce dictateur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être volontairement provocateur ou pas. Je sais pas si c'est pour faire vendre ou quoi que ce soit. Mais bon, là, c'est peut-être un peu sévère. Mais enfin, j'ai vraiment pas été convaincue par ça. Et c'est vrai que du coup, je me suis laissée prendre au jeu de la biographie, de l'autobiographie. Mais tout le long du roman, je me disais ok, j'ai pas encore trouvé le lien. Et je suis arrivée à la fin, je me suis dit ça marche pas, il aurait fallu qu'elle assume de faire soit la biographie de Pol Pot, soit son autobiographie, qu'elle assume le fait qu'il n'y avait aucun lien, mais pas qu'elle essaie de nous faire croire qu'il y en ait un. En fait, elle aurait même pu faire exactement le même roman, mais en me disant au début, il n'y a aucun lien, mais je sais pas, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me comparer à un dictateur pour voir ce que ça fait. Enfin, je sais pas, peut-être, ça aurait été plus honnête, je pense, de sa part. Il y a tout un côté un peu... pseudo-féministe de la part de Nancy Houston. Enfin, ce que je veux dire, c'est que bon, elle raconte aussi tout son développement personnel de voilà l'autobiographie de sa vie, enfin l'histoire de sa vie du coup, pour montrer que voilà, ça l'amène à devenir plus tard féministe. Mais moi, ça me reste en travers de la gorge parce que voilà, désolée, je peux pas lire Nancy Houston qui nous dit que c'est une grande féministe. Mais voilà, là du coup, je finis sur des points très très négatifs. Ça se laisse lire, et c'est ce que j'ai dit, c'est quand même bien écrit. Faut juste pas y chercher, je pense, trop de justification entre ce parallèle Pol Pot-Nancy Houston, mais bon, ça reste un roman agréable à lire. Hein.
D'accord, donc quelques réserves, mais on laisse à nos auditeurs et auditrices le choix de lire ou pas, de se confronter à ce parallèle osé, comme tu l'as dit. Et c'était donc Lèvres de pierre de Nancy Houston, publié chez Actes Sud. C'est la fin de ce numéro de L'écume des pages consacré une dernière fois à la rentrée littéraire 2018. Aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Marie Douniac, Alice Rabillou, Colline Lafontaine, Maë Burla qui se trouvait également en régie, et Juliette Meul. J'espère que ces numéros spéciaux du 35e au 40e vous auront plu et surtout donné envie de lire les ouvrages dont nous avons parlé. Je souhaiterais remercier une dernière fois toutes les maisons d'édition qui ont collaboré avec nous et sans qui ces nombreux numéros n'auraient pas été possibles. Actes Sud, Flammarion, L'Olivier, Zulma, Sabine Vespizer, Stock, les éditions de Minuit et Les Solitaires Intempestifs. Et pour les bandes dessinées, Delcourt, Futuropolis, L'Association, Dupuis, Casterman, Monsieur Toussaint l'Ouverture et Presque Lune. Merci également à tous nos lecteurs et lectrices qui se sont mobilisés pour cette rentrée, qu'ils se trouvent à Lyon ou à Paris. L'écume des pages, c'est la rentrée littéraire, mais pas seulement. N'hésitez donc pas à nous suivre si vous voulez continuer de découvrir les livres et des interviews avec des auteurs et autrices. À bientôt.
Dans la lumière des phares, t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord.
Ça ne veut pas dire que je m'arrête, mais non, je n'arrêterai jamais. Avec mon dernier souffle, ce sera encore une phrase de plus, un vers de plus.
Le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les
soirs. Adieu.